un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Solitaire, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 11 novembre 2024. 11 novembre, jour férié, et les studios de Radio Libre en Périgord sont fermés. C'est donc avec quelques jours d'avance que j'enregistre cette chronique qui sera bien évidemment consacrée au 11 novembre. Parce que pour les libres penseurs, le 11 novembre, c'est un moment important. C'est un jour où se tiennent des dizaines et des dizaines de rassemblements à travers le pays. Le plus souvent, devant ou près de monuments pacifistes ou à caractère pacifiste, avec toute une série d'organisations, d'associations, de partis politiques qui se ressemblent ensemble pour donc réclamer que, notamment sur la question des fusillés pour l'exemple, justice soit rendue et que les 639 fusillés français qui sont tombés sous des balles françaises, soient réhabilités collectivement. C'est un combat que ne cesse de mener la libre pensée, avec un point d'appui qui a été le vote de l'Assemblée nationale sur la base de la proposition de loi déposée par le député Bastien Lachaud, le député LFI Bastien Lachaud. L'Assemblée nationale avait apporté son soutien à cette proposition, et cette proposition a été ensuite repoussée par le Sénat, et puis il y a eu la dissolution, donc eh bien, l'ouvrage sera remis en place parce que c'est nécessaire. Nous ne baisserons jamais les bras sur cette question jusqu'à l'obtention, donc, de la réhabilitation de l'ensemble des fusillés pour l'exemple. Pour les libres penseurs de Dordogne, le Fred Zeller, ce moment se traduit par la participation, et c'est le cas depuis des années et des années, par notre participation au rassemblement qui se tient à Jansiou, devant ce monument superbe, ce monument pacifiste où un enfant, un écolier, brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre », c'est ce qui est marqué sur le bas-relief de ce monument. Alors cette année encore, nous nous y rendrons, nous participerons bien évidemment au repas fraternel qui suit le rassemblement, et ce rassemblement se tient cette année dans un contexte international extrêmement important, extrêmement préoccupant, et d'autant que les guerres n'ont fait que se développer depuis l'année, le carnage opéré par l'armée israélienne à Gaza, et puis maintenant au Liban et même ailleurs, puisqu'ils portent la guerre dans toute une série d'endroits, ne peut que susciter la plus grande réprobation et l'exigence qui se manifeste tous les jours à travers le monde, de l'arrêt des bombardements, de l'arrêt des livraisons d'armes à ce gouvernement génocidaire. C'est absolument indispensable que ces choses-là soient manifestées de la manière la plus massive et qu'elles puissent faire fléchir les différents gouvernements. Alors maintenant, nous allons écouter, puisque nous sommes, entre guillemets, le 11 novembre, un discours qui va être prononcé dans nombre d'endroits, dans ces différents rassemblements, au moment même de la diffusion de cette chronique, donc sur le coup de 11h30, suivant les lieux. Ce discours, c'est celui qui a été préparé par la Fédération nationale de la libre pensée, et que j'ai également donc enregistré pour qu'il puisse être porté à la connaissance des auditrices et auditeurs de Radio Libre au Périgord. Comme je disais, au moment même, il est prononcé dans toute une série, dans des dizaines de rassemblements à travers le pays. Et puis, après la lecture de ce discours, nous en arriverons à peu près au terme de cette chronique, je vous propose à ce moment-là d'écouter la version complète de la chanson qui nous sert d'indicatif, de jingle pour notre chronique, à savoir « Le forgeron de la paix ». C'est une chanson dont j'ai déjà raconté l'histoire, c'est une chanson qui a une histoire très paradoxale, et je vous propose donc de l'écouter en entier à la fin de cette émission, après donc la lecture du discours du 11 novembre. Alors simplement pour rappeler un petit peu l'importance de cette chanson, c'est une chanson qui a été créé par deux auteurs-compositeurs qui n'avaient strictement rien de militant ouvrier, mais dont les paroles sont éminemment et sans la moindre ambiguïté des paroles pacifistes, des très belles paroles. Et cette chanson, créée donc fin 19e siècle, a été, après la mort des deux auteurs et du compositeur également de cette chanson, est ressortie, remaniée j'allais dire, salie par des auteurs qui se sont vautrés dans un, comment dire, dans une forme de nationalisme et de cocardier absolument abject, en transformant cette chanson, Le Forgeron de la Paix, en Forgeron de la Victoire, avec des paroles particulièrement haineuses, avec des paroles qui appellent à la guerre, qui rappellent au sang versé, qui célèbrent la guerre. C'est absolument inadmissible. C'est le sens exactement inversé des paroles initiales de cette chanson. Et c'est bien évidemment pourquoi nous avons choisi cette chanson dans sa version initiale, Le Forgeron de la Paix. Voilà, donc je vous propose maintenant d'écouter le discours du 11 novembre et puis donc la version complète du Forgeron de la Paix. Merci, et donc je vous dis tout de suite, à la semaine prochaine, lundi 18 novembre, qui sera une émission particulière sur laquelle nous reviendrons et que nous annoncerons, je pense, dans les tout prochains jours sur les différents supports, bien évidemment de Radio Libre en Périgord, et également sur les vecteurs médias que nous utilisons au niveau du groupe Fred Zeller. Merci et à la semaine prochaine.
La guerre n'est plus un devenir. Elle est déjà là. Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes. Nous disions l'année dernière au même endroit. Chacun le ressent. Nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre, tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société, c'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient, dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. La libre pensée dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, des budgets militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là, sur un fond où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou postcoloniales à l'étranger, les unes après les autres. Il suffit de voir la triste palinodie de la conférence du Liban à Paris, il y a peu, où les deux principaux protagonistes du conflit, Israël et l'Iran, sont absents. Pour s'en rendre compte, il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme, pour tenter de reprendre des parts de marché. C'est aussi la militarisation de la jeunesse par la mise en œuvre du service national universel qui s'avère chaque jour comme un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Chaque semaine, on apprend un scandale lié au SNU. Même le très à droite média Le Point le dit dans cette édition du 21 octobre 2024, budget 2025, et si on supprimait le SNU? En phase de test, le service national universel coûte cher, sans atteindre ses objectifs, sa généralisation nécessiterait entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. Fin de citation de la revue Le Point. Les opposants au SNU sont chaque jour plus nombreux et plus déterminés que jamais à en finir avec cette ode permanente à l'armée, aux uniformes, à la discipline militaire. Chacun comprend que cette volonté de militarisation croissante de la jeunesse et de la société ne peut que conduire à la guerre, sinon à qui serviraient l'armée et les généraux? À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques et des armements de plus en plus sophistiqués, si ce n'est pour s'en servir un jour? Même le pape François, pourtant apôtre de la théorie de la guerre juste, ses prédécesseurs lui ont laissé cela en héritage, est obligé d'en convenir. Dans son discours du 10 janvier 2022, aux membres des corps diplomatiques accrédités auprès du Saint-Siège, c'est la formule exacte, il déclarait, citation, « Le dialogue et la fraternité sont plus urgents que jamais, Tous les conflits sont facilités par l'abondance des armes. Celui qui possède des armes finit tôt ou tard par les utiliser, car on ne peut pas s'aimer avec des armes offensives dans les mains. » Fin de citation. Vous voyez que la libre pensée n'est pas sectaire, on cite même le pape dans un discours pacifiste. Nous combattons la guerre et l'économie d'armement qui ne peut conduire qu'à la guerre généralisée. C'est aussi pourquoi nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Rappelons qu'en 1917, au moment des mutineries, il y eut 450 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre. 27 soldats furent fusillés et 1500 furent condamnés lourdement. Le sang des 639 fusillés, pour l'exemple, coula dans les mêmes rigoles que celles des millions de morts dans les tranchées. Le sang unissait les victimes, l'injustice séparait les hommes. C'est fidèle à ce combat pacifiste internationaliste que la libre pensée, avec beaucoup d'autres à ses côtés, combat pour la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Ici, tout est symbole. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non pour que l'on puisse dire non à la guerre aujourd'hui. Nous nous appuyons sur la prise de position pour cette réhabilitation de 2000 communes, 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux. Nous avons obtenu une première victoire par le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi à l'initiative du groupe parlementaire de la France insoumise. Mais le Sénat l'a refusée ensuite. Nous recommencerons sans cesse jusqu'à la victoire. Nous n'avons jamais été aussi près de gagner cette bataille de justice. Chacun comprend que la situation politique aujourd'hui est un peu compliquée. C'est une évidence. Pour relancer le processus parlementaire, il faut à nouveau représenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit votée de nouveau, puis la représenter au vote du Sénat. Nous ne pouvons, nous, permettre qu'elle soit retoquée au Palais Bourbon, car cela effacerait l'acquis du premier vote. Nous sommes en relation permanente avec différents groupes parlementaires pour guetter une fenêtre de tir possible. Une fenêtre de tir pour les fusillés, pour l'exemple, nous sommes en plein paradoxe. Mais toute la situation politique est paradoxale en ce moment. Emmanuel Macron, dans son délire de pouvoir personnel, exacerbé à l'extrême et aidé en cela par l'extrême droite, et bien d'autres, de la droite à une certaine gauche qui se renie chaque jour davantage, a refusé de nommer un Premier ministre issu de la coalition parlementaire arrivée en tête parce qu'elle n'était pas majoritaire absolue. Alors il en a nommé un d'un parti qui a fait 5,4% aux élections. C'est quoi si l'on prend les gens pour des imbéciles ? Toute la situation se tend vers un possible coup d'État dont on ne peut préjuger la forme et le contenu. Mais il ne reste plus, in fine, que cela à cet apprenti Bonaparte. N'oublions pas que le coup d'État est permanent sous la Ve République. Et avec ce coup d'État viendra nécessairement une répression accrue, si c'est encore possible de faire pire. Et la guerre, comme une folle aventure pour garder le pouvoir, il y a incontestablement du Netanyahou chez Macron, tous les totalitaires se ressemblent. L'autre solution pour dénouer la crise et trouver une solution positive, c'est de redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante souveraine qui décidera librement de quelles institutions le pays a besoin pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La crise est nationale et aussi internationale. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine. On est frappé de stupeur par les chiffres annoncés. 600 000 Russes, 480 000 Ukrainiens. Le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasse le million de morts et blessés. 41 000 morts, dont plus de 16 000 enfants, et plus de 96 000 blessés à Gaza, en Palestine. Au moins 2 546 personnes auraient été tuées, dont 127 enfants depuis octobre 2023. 11 862 autres auraient été blessés, dont 890 enfants au Liban, depuis l'agression de l'État sioniste d'Israël. Plus de 400 millions de femmes et d'hommes vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, soit 5,5% de l'humanité. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité que l'on assassine, comme en Ukraine. On assiste à des tueries de masse qui recommencent pour des questions de territoire. Rappelons que le mot « sacrifice » vient d'une racine latine qui veut dire « faire du sacré ». On voit que dans ces guerres, la dimension religieuse est bien présente et prégnante. Leur sacré religieux est sanctifié par le sang des populations que l'on assassine et que l'on sacrifie pour des intérêts sordides. Le génocide du peuple palestinien rappelle celui du million de tziganes par les nazis et celui des milliers de prisonniers soviétiques sur qui furent expérimentés pour la première fois le Zyklon B en 1941, qui assassina ensuite des millions de juifs dans les camps d'extermination à partir de 1942. Le grand historien Robert Olivier Paxton, dans un récent ouvrage « Le fascisme en action », écrivait, citation, alors que les régimes fascistes n'auraient pu survivre sans se lancer dans de nouveaux territoires pour leur race, Lebensraum Spazio Vitale, espace vital, et qu'ils ont délibérément choisi la guerre d'agression à cette fin, ayant clairement l'intention de faire monter encore d'un cran la tension dans la population. Fin de citation. Ces lignes ont été écrites pour l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler, et on peut les appliquer sans problème au conflit entre Zelensky et Poutine et aussi à l'État sioniste, assassin d'Israël et de Netanyahou. Ces lignes ont été écrites pour l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler et on peut les appliquer sans problème au conflit entre Zelensky et Poutine et aussi à l'État sioniste, assassin d'Israël, de Netanyahou. Comment ne pas penser aussi à ce que disait Curtis LeMay, ancien pilote des B-17 Flying Fortress pendant la guerre contre le Japon et qu'il réutilisera pendant la guerre du Vietnam quand il deviendra chef d'état-major des États-Unis. Citation, « Nous allons les ramener à l'âge de pierre ». Dans le même temps, les génocidaires veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes car le crime, pour rester impuni, doit rester silencieux et surtout sans témoin. Et dans le même temps, leurs complices qui ont aussi du sang sur les mains discutent et colocutent à l'infini pour contester le terme de génocide à Gaza contre le peuple palestinien pour justifier la guerre de Netanyahou. Imre Kertész, lauréat du prix Nobel de littérature en 2002, pour une écriture contre l'arbitraire barbare de l'histoire et qui fut un adolescent vivant la souffrance des camps à Auschwitz puis à Buchenwald, a définitivement réglé ce problème en disant en substance contre les révisionnistes et les négateurs des chambres à gaz que le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. Je vous conseille de regarder sur Planète Plus en replay un documentaire en 3 parties sur le procès Eichmann à Jérusalem. C'est édifiant. Il est montré que pour avoir la bombe atomique contre les pays arabes, Israël a négocié avec la RFA pour avoir accès à sa technologie et aussi avec la France de Gaulle. Adenauer a accepté à condition qu'Israël témoigne en faveur de certains criminels de guerre nazis au procès de Nuremberg, ce qui les a sauvés de la peine d'emprisonnement ou de mort, et plus tard d'arrêter la traque des nazis criminels de guerre. Ben Gourion a tout accepté pour avoir la bombe, même de protéger de procès les responsables juifs des Judenrat, notamment de la Hongrie, qui avaient collaboré avec les nazis pour la déportation de centaines de milliers de juifs. Eichmann, dans sa folie mégalomaniaque, a réalisé des interviews à un journaliste argentin nazi sur des bandes magnéto, où il avoue tout et qu'il était responsable de l'organisation du génocide. Le procureur général du procès d'Eichmann a demandé à maintes reprises au gouvernement d'Israël de lui procurer les bandes magnéto que les USA pouvaient avoir. Ben Gourion a tout fait pour empêcher cela, pour garder des relations avec la RFA, car le principal conseiller d'Adenauer était impliqué dans le génocide par l'élaboration des lois de Nuremberg contre les Juifs. Le gouvernement et l'administration de la RFA étaient truffés d'anciens nazis. Et si les bandes magnéto avaient été rendues publiques, le scandale faisait chuter Adenauer et Israël n'aurait pu avoir la bombe atomique. L'État d'Israël a donc protégé et sauvé des nazis assassins pour ses propres intérêts, contre la justice rendue aux 6 millions de juifs assassinés. Et ces gens-là dénoncent pour antisémitisme tous ceux qui défendent le peuple palestinien génocidé à son tour. La grande crainte, probablement de la RFA, était qu'Israël lui remette Eichmann pour qu'il soit jugé en Allemagne, ce qui aurait tout dévoilé. Il fallait donc faire taire au plus vite Eichmann, qui fut condamné à mort pour qu'il ne parle pas, malgré l'intervention de plusieurs intellectuels juifs, dont Martin Buber, pour qu'il ne soit pas condamné à mort. L'un des responsables juifs du Judenrat de Budapest, qui avait collaboré avec les nazis pour la déportation de milliers de juifs hongrois à Auschwitz et qui avait témoigné à Nuremberg en faveur de certains nazis sur ordre du gouvernement israélien, fut mystérieusement assassiné par trois tueurs à Jérusalem. Il ne devait pas parler lui aussi. Ce documentaire, donc, qui a été diffusé sur Planète Plus, ce documentaire est passionnant et tout est révélé à la fin. Les bandes magnétiques furent redécouvertes, par hasard, en 1990 et confirmaient ce qu'avait dit le procureur général. Eichmann était bien l'organisateur du génocide et il dévoilait certains noms. Les révisionnistes d'aujourd'hui ont une longueur d'avance et aussi un gros problème sur ceux d'hier. C'est que le génocide est encore en cours et qu'il y a des témoins, des victimes, des survivants, des preuves. Et ils devront répondre de leur complicité de crimes contre l'humanité. Le sang des 16 000 enfants palestiniens ne s'effacera pas. Il leur restera toujours sur les mains. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. Elle participe et participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, contre le SNU et pour la défense des libertés. C'est pourquoi la libre pensée dénonce la politique de répression du gouvernement Macron-Darmanin qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La libre pensée condamne ces interdictions de manifester notre solidarité et appelle à y participer sous la forme que chacun choisira librement. La libre pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à reprendre sa terre. Aujourd'hui, l'épicentre de la répression macroniste se concentre à Montpellier contre les défenseurs du peuple palestinien soumis à un génocide. La libre pensée avec le mouvement boycott des investissements en sanctions, BDS, subit une répression accrue menée par un préfet qui a déjà traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne le plaisaient pas, un véritable autocrate comme son maître Macron. Il vient de déposer une plainte pénale contre notre camarade Alban de Souterre, responsable de la libre pensée de l'Hérault, pour avoir lu, à la fin d'une manifestation, la Déclaration nationale de la libre pensée en soutien au peuple palestinien. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Cette plainte pénale est donc désormais une affaire d'État. La dernière fois que l'État s'en est pris à la libre pensée, c'était en novembre 1940, quand Pétain et le régime de Vichy ont dissous et interdit, quasiment en même temps, la libre pensée, les confédérations syndicales et les obédiences maçonniques. On voit que la Macronie a de bien curieuses références et une nostalgie certaine, et on comprend qu'Emmanuel Macron fasse fleurir et honorer Pétain aux Invalides. Ceci explique cela. Mais nous avons tous ensemble la force irréversible et puissante d'en finir avec cette répression d'État et avec le régime qui va avec. Nous vous appelons à signer massivement. L'appel qui a déjà reçu des milliers de signatures en solidarité avec notre camarade de l'Hérault et contre la répression contre la libre pensée. Répression et acharnement contre les militants de l'Hérault dénonçant le génocide en Palestine, ça suffit. Et donc ça, c'est le titre de cette pétition à signer en ligne. Et donc nous vous mettrons bien sûr le lien. Nous appelons toutes les organisations, associations, syndicats, partis à prendre position pour cela et à faire connaître largement leur prise de position. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays, dans les villes, les villages et les campagnes, dans les usines, les bureaux et les chantiers, dans les écoles, les lycées, les universités en France et dans bien d'autres pays, le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine, ni Dieu ni maître, à bas la calotte, et vive la sociale. Et je vous remercie.
Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Auprès du brasier qui rayonne, son marteau s'élève dans l'air. Il retombe et sa main velue s'accompagne d'une chanson. En forgeant un soc de charrue pour une prochaine moisson. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille. Loin des canons, je vis en liberté. Je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. Soudain par la porte qui s'ouvre entre une femme au teint bronzé, sous le long manteau qui la couvre, elle tient un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante et l'homme, en fronçant le sourcil, lui demande avec épouvante: femme, que viens-tu faire ici? C'est pour la paix, dit-il, que je travaille. Loin des canons, je vis en liberté. Je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité. Moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre et forge mon sabre à l'instant. Le forgeron saisit la lame, mais la broyant sous ses outils, il lui dit: sois maudite, ô femme, toi qui m'as pris un jour mon fils. C'est pour la paix que mon marteau travaille. Loin des canons, je vis en liberté. À jamais soient maudits les engins de bataille. Je ne forge du fer que pour l'humanité. En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.